très simple par Percival Christopher Wren. L'Amérique centrale couvre une superficie très étendue et dans sa population nombreuse et très mélangée, on trouve aussi bien des individus de descendance nord-américaine ou européenne presque blancs que des Noirs ou des Indiens 100% en passant par les Métis qui présentent approximativement à parts égales les caractéristiques de ces races. Parmi les habitants du Mexique, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Salvador, on trouve des gens qui travaillent dur et des paresseux, et parmi ces derniers, les paresseux les plus paresseux du monde entier. Sans être taxé de témérité, mais en demeurant au contraire dans les limites du raisonnable et du plausible, on peut affirmer que le seigneur José Hernández tenait la palme du plus paresseux des paresseux entre le Rio Grande del Norte et le canal de Panama. Bien entendu, il était presque aussi pauvre que paresseux, mais pas tout à fait, car étant un Hidalgo au sang parfaitement bleu et à l'ascendance immaculée, il n'avait qu'à demander pour recevoir au moins 10 centavos à la fois. Mais le fait même de demander implique un effort, et chaque soir, le seigneur José se voyait dans la pénible obligation de se lever de son confortable siège de la plaza, agréablement ombragé, pour errer dans la Avenida Reale, en vue d'accoster tous les Européens qu'il pourrait y rencontrer. Des Blancs seulement, bien entendu, car José Hernández avait sa fierté, et un caballero ne pouvait demander la charité à un Indien ou à un sans-mêlé, quelque florissante que puisse être la situation de ces gens comparée à la sienne propre. Un caballero peut ne pas avoir de chemise ni de chaussettes, n'avoir qu'une chaussure et demie seulement, une veste de coton et des pantalons sans forme ni couleur, et pourtant demeurer un caballero, un hidalgo et un gentleman, c'est-à-dire un don. Et à celui-ci, tout Européen bien élevé et bien pensant donnera une pièce de 10, 20 ou 50 centavos, voire même un peso. Car son cœur sera touché par le spectacle de tant de sereines et dignes souffrances, à condition qu'il n'ait pas été touché trop souvent. Ainsi donc, jusqu'à concurrence de quelques pas et de quelques mots, seigneur José Hernández devait travailler. C'était ennuyeux, certes, mais quand il avait recueilli quelques pièces, il pouvait aller faire un choix de tamales chaudes, de bananes frites, de cuchiladas, de frijoles, de séduisants entremets, d'admirables petits pains et d'excellents cafés. Ensuite, après quelques cigarettes agréablement rehaussées d'un tantinet de marijuana et un verre de tequila, il allait au lit, sur le même banc qui lui servait de fauteuil pendant le jour et de couche la nuit. Notre monde étrange fourmille de phénomènes remarquables. Parmi ceux-ci, il y avait le fait que le frère de José, Don Pedro Hernández, s'il n'était pas l'homme le plus occupé de toute l'Amérique centrale, s'avérait sans aucun doute et de loin l'homme le plus industrieux, travailleur, capable et heureux en affaires de San Antonio, sinon même de tout l'état de Sonongo. Et aussi naturellement que l'oisiveté la plus complète et la plus inaltérable paresse avait rendu José aussi pauvre qu'il est possible de l'être sans mourir, un travail de tous les instants, des projets féconds et un impitoyable sens de l'opportunité avaient enrichi l'admirable Pedro. Tandis que l'un des frères se contentait d'un misérable costume et d'une chaussure et demie, l'autre habitait une belle maison, roulait dans une superbe automobile et jouissait de l'admiration et du respect général, considération et honneur qui sont le droit et le juste dû de tout homme riche. Ce que n'appréciait pas du tout, le dit seigneur Pedro Hernández, c'était la honte que représentait son abominable frère, sale et hirsute, vêtu de lambeaux, assis du matin au soir sur son banc de la plaza ou faisant sa chasse vespérale à l'argent facile long de la Avenida Reale. José était pour Pedro une épine dans le pied, une malédiction, une croix qu'il portait de mauvaise grâce. José était la bête noire de Pedro. En plus de la blessure infligée à l'orgueil de Pedro par la constance que mettait son propre frère à vivre de la charité indifférente et occasionnelle des concitoyens de Pedro, il y avait le fait particulièrement irritant de savoir que ses ennemis, et même les riches ont des ennemis, trouvaient un mesquin et méprisable plaisir à jeter les pièces à son frère lorsqu'il passait devant l'endroit où il avait coutume de se tenir ou lorsqu'il le rencontrait au cours de son excursion crépusculaire entre la plaza et l'hôtel Grande Imperiale. Car il n'était pas rare, dans San Antonio, les coquins qui aimaient à dire, en riant bien fort lorsqu'ils entraient dans leur bar favori, aux habitués, leurs amis. Je viens de rencontrer le mendiant de frère de Don Pedro Hernandez, et je lui ai donné une pièce de 50 centavos. Quel parfait fainéant! Mais c'est quand même celui des deux frères que je préfère. Cependant qu'un autre ajoutait, avec un mauvais sourire, « D'autant que si Don José Hernandez ne fait absolument rien, il ne fait rien de mal, lui. Ce qui est plus qu'on ne saurait dire du noble Don Pedro. » De bons amis, comme tous les bons amis, rapportaient toujours à Pedro ces sortes de propos. Mais que José fût plus sympathique que Pedro ou non, il était malheureusement indéniable que des deux, José était de loin le plus heureux. Qu'il en fût ainsi était certes extrêmement fâcheux, indésirable et immoral. Mais telle était néanmoins la situation lorsque l'aube se leva sur le jour fatidique qui prit place dans les annales de San Antonio et les régions environnantes sous le nom de Jour du Rocher. Tandis que l'ombre de la nuit s'étendait encore sur la ville aux premières heures de cette mémorable journée, la terre, ainsi qu'elle le faisait si fréquemment dans l'état de Sonango, sembla s'étirer tout en dormant, se retourner, bâiller en plusieurs endroits, pour finir par un gentil petit frisson d'aise avant de se remettre à rêver. En l'occurrence, le gentil petit frisson d'aise délogea un rocher accroché de façon quelque peu précaire au flanc de la montagne qu'il protège de discutable manière San Antonio. C'était vraiment un rocher considérable, rond, presque sphérique en vérité, de la taille d'un hippopotame bien gras. Libéré de son lieu de repos et à l'opposé de José, sans aucun doute fatigué d'avoir sommeillé en cet endroit pendant si longtemps, il partit en roulant allègrement et bondissant positivement de joie, se fraya un chemin vers le pied de la montagne, avec un élan accru à chaque bond. Il sauta fort plaisamment un maigre arroyo, traversa en badinant les deux rangées de maisons qui bordaient une rue, et sa course légèrement déviée de ce fait roula tel un inoffensif cerceau d'enfant tout droit le long de la portion centrale de l'avenida. À la fin, avec un soupir de satisfaction, il s'arrêta. Pour le bien-être et la sécurité des vies humaines et pour l'intégrité de la propriété en la bonne ville de San Antonio, ce n'était pas trop tôt. Mais le malheur incontestablement voulut que le rocher, dont la hauteur excédait celle d'un homme de bonne taille et aurait nécessité les bras étendus de trois hommes pour en faire le tour, choisit pour s'immobiliser l'endroit exact où, sans le vouloir peut-être, la ligne de tramway traverse la ligne du chemin de fer d'intérêt local qui, par San Antonio, va de Jiménez à Loyopa et gênant en outre la circulation de toutes les voitures, charrettes et autres burros, en un mot, l'ensemble du trafic qui encombre la passante avenida. Imaginez, si vous le pouvez, la consternation des édiles, l'anxiété du malheureux maire, au fur et à mesure que bourdonnaient les lignes télégraphiques signalant par de furieux messages le complet blocage de la voie ferrée. Les aussi furieuses réclamations émanant du directeur de la compagnie Force Lumière et Tramway de San Antonio au sujet de l'interruption du trafic sur sa ligne. Et au fur et à mesure que les citoyens les plus éminents protestaient par téléphone, lettres et télégrammes sur l'inconvénient et la gêne que présentaient pour eux, marchands et négociants, l'arrêt total de la circulation routière. Mais comme le fit remarquer le maire au cours d'une session extraordinaire du conseil municipal, il était très facile pour les chefs surveillants de la compagnie de chemin de fer d'envoyer des télégrammes. Il était très facile pour le directeur des tramways de donner des coups de téléphone. Il était très facile aux chauffeurs de camions ou de taxis de faire des visites et de développer des arguments personnels. Mais parmi les quelques petites choses qu'ils oubliaient de lui dire, figurait la manière de déplacer le rocher colossal. « Ne peut-on le haler ?» demanda un conseiller municipal désireux de contribuer utilement à la réunion. « Oh, sans doute, sans aucun doute, » dit le maire, « si nous disposions seulement d'une dizaine de milliers de tracteurs et les moyens d'amarrer le rocher. Est-ce que nous ne pourrions pas demander à l'un de nos principaux entrepreneurs, au seigneur Don Pedro Hernandez, par exemple, de nous construire une sorte de plateforme surrouée et d'attacher... Oh, certainement, certainement, » répliqua le maire en souriant. En lui laissant quelques mois, je suis tout à fait sûr qu'il pourrait bâtir une sorte de plateforme sur roues, suffisamment solide pour supporter le poids fantastique de ce gigantesque bloc. Et lorsqu'il aurait terminé, peut-être seriez-vous assez bon pour vous donner le mal de pousser vous-même le rocher dessus, mon cher collègue ? Sans se laisser arrêter par les sarcasmes du maire, un autre conseiller fit une nouvelle suggestion. « Que diriez-vous d'une grue ? » s'enquit-il. « N'existe-t-il pas de tels appareils conçus pour soulever d'énormes poids ?»« Très exact, très exact !» approuva le maire. « Très brillante idée !» Je ne serais pas du tout surpris d'apprendre qu'à Pittsburgh, aux États-Unis ou à Birmingham, en Angleterre, existait une grue, susceptible de soulever une pierre encore plus grosse et pesant des centaines de tonnes. Mais nous sommes ici à San Antonio, dans le Sonongo, et pour le moment, il ne me souvient pas d'avoir vu une grue d'une centaine de pieds de haut et d'un million de chevaux vapeur dans la cour d'un de nos concitoyens. Là-dessus, le conseil demeura silencieux. Les uns se rongeaient les ongles, tandis que les autres faisaient craquer leurs articulations ou se mordaient à la moustache ou se grattaient simplement à la tête. Enfin, le vice-président du conseil municipal fit, ainsi que ses hautes fonctions et son devoir le lui commandaient, une utile suggestion. « Dynamite !» explosa-t-il. Le maire étouffa une exclamation et, réprimant un mot déplacé, observa. Le seigneur veut-il suggérer de faire s'envoler le rocher avec lui San Antonio et la moitié de l'état de Sonanga en enfer ? Murmurait un conseiller avec à propos. En poussière, allais-je dire, continua le maire. Mais sans doute, notre ami connaît-il mieux que moi ce que l'avenir lui réserve. Mais la dynamite, à l'instar de nombreux autres sujets dangereux, possède un certain pouvoir d'attraction. Ne pourrions-nous faire creuser des trous dans le rocher et faire introduire ensuite des bâtonnets de dynamite? De la sorte, ne le ferions pas exactement exploser, mais plutôt le réduirions en morceaux, le désintégrerions, en quelque sorte, propose un grave et vénéré seigneur. Oui, nous le pourrions. Certainement, ce serait très possible, répliqua le maire. Par exemple, vous irez voir le propriétaire de l'hôtel impérial devant lequel se trouve le rocher et lui exposerez votre idée. Vous n'oublierez pas de lui demander s'il voit une objection quelconque à ce que ses fenêtres soient soufflées et ses plafonds arrachés, ou que si ses pensionnaires ne sont pas tués, ils demeurent fous ou sourds jusqu'à la fin de leur vie, ajouta-t-il. D'autres solutions furent proposées, toutes plus fantastiques les unes que les autres, jusqu'à ce que le malheureux maire, autant par fatigue que pour éviter une bagarre, sinon un meurtre, déclara la séance levée sans que rien n'ait été décidé, rien en tout cas qui puisse assurer un repos bien gagné, ou l'enlèvement du rocher. La seule chose qu'il put faire, qu'il eut le devoir de faire et qu'il fit, fut d'offrir une récompense de 1000 pesos à quiconque soumettrait une suggestion acceptable pour l'enlèvement de l'énorme pierre, et une autre de 10 000 pesos s'il mettait son plan en exécution sans atteinte nouvelle aux vies et aux biens de la population de San Antonio. En revenant ce soir-là de son bureau de l'hôtel de ville vers sa maison jadis heureuse, fatigué, triste, épuisé, abattu et déprimé jusqu'au plus profond de son être, il passa devant le banc de la plaza sur lequel Don José Hernandez se reposait. « Seigneur, murmura languissamment ce gentilhomme, voulez-vous que le rocher soit enlevé, n'est-ce pas ? Eh bien, je l'enlèverai pour vous cette nuit même au prix convenu. » Le maire ne fut même pas amusé et exposa brièvement la situation. « En tout cas, seigneur, rétorqua aimablement José avec un sourire, si le soleil en se levant demain sur la place qu'occupe actuellement le rocher la trouve vide, que le rocher se soit évanoui avec les autres miasmes et brouillards matinaux, je viendrai vous réclamer la somme de 11 000 pesos. « Et vous les aurez !» grogna le maire. « Et 11 000 autres après » ajouta-t-il dédaigneusement. « Peut-être vous proposez-vous de le manger ?»« L'argent ? » ?»« En grande partie. J'en boirai aussi, bien entendu. »« Mais non, je voulais dire le rocher !» répliqua le maire, qui, tout en jurant quelque peu, continua tristement son chemin. Et le lendemain matin, le soleil se leva comme à l'accoutumée sur la ville de San Antonio, et se comporta exactement comme d'habitude, étant donné qu'une grosse roche ne venait paralyser la circulation dans la ville. Informé du fait, avant même d'avoir quitté son lit, le maire n'en pouvait croire ses oreilles, et 5 minutes plus tard, il n'en pouvait davantage croire ses yeux. Lentement, et en quelque sorte à contre-cœur, il se laissa convaincre du fait par le seigneur José Hernandez, né fatigué élevé dans la nonchalance et vivant de sa fainéantise, qui, plus là que jamais, s'approcha de lui et murmura. « Préférez-vous me signer un chèque de 22 000 pesos tiré sur la banque du Mexique ou m'assurer 2 pesos par jour pendant les 30 prochaines années ?» Le maire sembla avoir quelques difficultés à avaler sa salive et respira profondément. « Au nom du Dieu Tout-Puissant » bégaya-t-il. « Mais comment avez-vous fait ?»« Eh bien, comment Don José a-t-il opéré ?» Car cette brillante petite histoire de Percy Owen ne doit pas être seulement un plaisir pour les amateurs de littérature, mais également une énigme, avec les satisfactions qui s'attachent à la recherche de sa solution. Pouvez-vous imaginer quelle fut celle qu'apporta Don José au problème du rocher obstruant? Si vous n'y arrivez pas, lisez l'explication donnée par M. Wren dans les 2 derniers paragraphes de cette histoire, que vous trouverez imprimée à l'envers immédiatement après ces lignes. Oh, j'ai tout bonnement persuadé un certain nombre de mes amis, des péons, à l'esprit simple, mais au travail efficace, de creuser un gros trou à côté du rocher. Il a roulé dedans, et ils n'ont eu qu'à le recouvrir. Depuis le jour du rocher, Don José Hernandez s'est vu éviter jusque et y compris l'effort de mendier. C'était très simple. Par Percival Christopher Wren.